Radio PGDG.
Le son de ton lycée.
Bonjour à tous et à toutes. Dans le cadre de la semaine de la presse, la classe de seconde 3 va vous présenter l'actualité du jeudi 1er avril 2021. Thomas et Lorenzo vous présenteront l'actualité politique et économique de la crise sanitaire. Myrtille, Romain et Evan évoqueront le sujet de l'environnement et de la pollution de l'air. Ensuite, Simon, Mathilde et Roman vous parleront des féminicides et Lynn, Tiffany, Perrine et Joëva vous parleront du viol. Enfin, Mathis, Bilal et Théo vous présenteront l'actualité sportive.
Mercredi 31 mars, le président de la République s'adresse aux Français. Il annonce que tous les départements métropolitains, à partir du samedi 3 avril, rejoindront les 19 déjà soumis aux restrictions sanitaires. Cependant, on ne note aucun changement dans le confinement. Les restrictions restent les mêmes. Pas d'attestation pour se déplacer à moins de 10 km autour de chez soi. En revanche, au-delà de 10 km, il faudra présenter une attestation dérogatoire avec motif impérieux. Par ailleurs, les crèches, les écoles maternelles, primaires, collèges et les lycées seront fermés à partir du 6 avril. Tous les écoliers français seront à la maison pour des cours en distanciel du 6 au 10 avril. Des mesures qui, selon le président, devraient freiner le virus. Il a décidé de mettre les trois zones en vacances, en même temps, du 12 au 26 avril, pour une réouverture des primaires la semaine suivante. Ce sera le tour des collèges et lycées, la semaine du 3 mai. Un président qui a déclaré aux Français lors de son allocution « Il faut se féliciter d'avoir laissé les écoles ouvertes, contrairement aux autres pays européens », insiste le Parisien. Emmanuel Macron fait part de la détresse hospitalière. Il veut passer de 7 000 à 10 000 lits de réanimation, car nous avons dépassé le pic de la seconde vague avec plus de 5 000 lits occupés le mercredi 31 mars, donc 1 500, dans un état critique. Lors de cette allocution, au moment de la prise de parole du président, la France connaissait son record de contamination déclaré, avec 59 000 cas positifs et 300 morts de plus, ce qui porte le lourd bilan à 95 000 morts du Covid en France. Entre les patients en réanimation et les 28 000 hospitalisés à ce jour, les médecins craignent un tri des patients les plus graves, ce qui mettrait à l'écart de nombreux malades. Faisons le point sur la campagne de la vaccination. L'Italie rend la vaccination obligatoire pour tout le personnel soignant, contrairement à la France selon le Figaro. Sur le territoire français, des millions de doses sont prévues. Pour sa part, le président a dévoilé le plan de vaccination pour les mois à venir. Mi-mars, les plus de 70 ans. Mi-avril, les plus de 65 ans. Mi-mai, les plus de 50 ans. Et à partir de juillet, ce seront les 18-50 ans. Le président de la République annonce l'arrivée de renforts dans la vaccination avec tous les médecins, les pharmaciens, les sapeurs-pompiers, les étudiants de médecine ainsi que les retraités du monde médical, suivi de l'aide des vétérinaires et de la mobilisation des soignants de l'armée française. Maintenant, Lorenzo va vous présenter l'impact de la crise sur l'économie et des différents plans de relance internationaux.
Le jeudi 3 septembre 2020, le président de la République annonce aux Français son plan de relance de 100 milliards d'euros. Dont 40% sont financés par l'Union européenne. Désormais, ce plan se met en marche. Selon le site du quotidien Le Figaro, 11 milliards d'euros concernant la mobilité durable ont déjà été affectés, dont 4 milliards à la SNCF, 2 milliards pour les transports en commun et 2,7 milliards utilisés pour la rénovation thermique des structures publiques et pour les particuliers ayant droit à la prime Rénov'. Celle-ci concerne 200 000 ménages français en 2020. Ce plan est un pas en avant pour redynamiser l'économie et la transition écologique du pays. À l'échelle continentale, l'Union européenne a annoncé une enveloppe globale de 1 800 milliards d'euros, répartie en fonction de l'impact de la crise sur les pays. L'objectif est de créer une Europe plus verte, plus numérique et plus résiliente, d'après la Commission européenne. De l'autre côté de l'Atlantique, Joe Biden avait aussi annoncé son plan de relance de 1 900 milliards de dollars en janvier 2021, lors de son investiture. Selon le quotidien Le Monde, 9% du plan de relance a été consacré à la lutte contre le Covid-19, dont 5 milliards pour la vaccination et 50 milliards de dollars pour des tests et des traçages. C'est un besoin pour le pays qui a subi près de 550 000 décès liés au Covid-19. Malgré tout, ce plan de relance fait débat au Congrès car il y a un risque d'inflation suite à l'insertion brutale d'une somme importante dans l'économie.
Merci Thomas et Lorenzo de nous avoir parlé de l'actualité économique et sanitaire. Passons maintenant à l'environnement et la pollution de l'air, présenté par Myrtille, Romain et Evan.
Bonjour à tous, je suis Evan et aujourd'hui on se retrouve pour la rubrique environnement. Comme vous le savez, la pandémie actuelle a enchaîné de nombreux décès. Mais saviez-vous que la pollution de l'air est responsable de 15% des morts de la Covid-19 ? Pour nous en parler, deux invités sont ici avec nous. La scientifique spécialisée dans la pollution atmosphérique Myrtille.
Bonjour.
Et Romain, un Français qui a vécu en Inde et qui va nous raconter son quotidien empoisonné dans la ville polluée.
Bonjour.
Alors, Romain, quel effet cela fait-il de revenir en France après de nombreuses années passées à Delhi ?
Lorsque je suis revenu, j'ai été surpris. L'air est beaucoup plus respirable en France qu'en Inde. Là-bas, des nuages de fumée dérivent parfois au-dessus de Delhi, à cause du brûlage agricole, qui est le fait de brûler des déchets verts. Lorsque je sors, j'ai mal à la tête et parfois la nausée. J'ai du mal à respirer à cause du manque de souffle. Des actions simples, comme monter des escaliers, me fatiguent très facilement. Dans la rue, on portait tous des masques bien avant la pandémie de coronavirus. Cependant, je trouve que cela avait peu d'effet contre les problèmes de respiration.
Qu'en pensez-vous, Myrtille ?
Il est vrai que les masques contre la pollution ne produisent pas une protection réellement efficace. Comme ils doivent nous laisser respirer, les masques peuvent laisser passer des particules fines qui sont les plus dangereuses.
Romain nous parlait de ses problèmes de santé dus à la pollution de l'air. Myrtille, est-ce commun à tout le monde ?
La pollution de l'air entraîne bien des problèmes de santé. Asthme, cancer pulmonaire, voire même crise cardiaque, tout cela peut être dû à la pollution de l'air. Quand elle se dissipe, la vitesse à laquelle la santé s'améliore est étonnante. Par exemple, le premier confinement a provoqué en Chine une augmentation de la qualité de l'air. Selon des études, cette amélioration a sauvé plus de vies que le coronavirus en a pris, à en croire les statistiques communiquées par les dirigeants chinois.
Des mesures efficaces ont-elles été prises ?
Pas vraiment. Certes, la campagne pour que les Indiens ruraux n'utilisent plus de combustible à fumer pour cuisiner a permis de réduire la pollution intérieure et de sauver des centaines de milliers de vies. Cependant, la pollution extérieure ne s'est pas vraiment améliorée et cause beaucoup de morts. La pollution atmosphérique est responsable de 7 millions de décès prématurés par an dans le monde. La pollution de l'air s'accumule au fil du temps. C'est une pandémie au ralenti.
Qu'en diriez-vous, Romain ?
Il faut qu'on remette en question notre manière d'agir. En Inde, des ordures non collectées sont brûlées dans les rues et le nombre de voitures sur les routes a quadruplé en 16 ans. Les usines polluent beaucoup aussi. Nous devrions changer nos manières de vivre pour réduire le nombre de décès dus à la pollution atmosphérique.
C'est sur cette pensée que nous terminons cette rubrique sur l'environnement. Merci Myrtille et Romain de vous être déplacés. Cette interview a été réalisée à partir du National Geographic d'avril 2021. Nous espérons vous retrouver pour évoquer les océans. C'était Evan, bonne journée à tous.
Parlons à présent du féminicide avec Simon, Roman et Mathilde. Puis nous enchaînerons directement avec une chronique sur le viol de Lynn, Tiffany, Perrine et Joëva.
Le 8 mars dernier a eu lieu la Journée internationale des droits de la femme. C'est pourquoi Simon, Mathilde et moi voulons vous présenter une chronique sur le féminisme. En effet, depuis quelque temps fleurissent des collages de phrases féministes qui dénoncent les féminicides.
Ces collages sont visibles sous la forme de grosses lettres noires sur le fond blanc. Très simple, sans images ni illustrations. Qui sont collées sur les murs des nombreuses villes en France et dans le monde.
Mais que disent ces phrases ?
Justement, Mathilde, voici quelques exemples.
Au lieu de protéger vos filles, éduquez plutôt vos fils. Cette phrase réagit à la polémique autour des crop tops en septembre 2020, à savoir leur interdiction ou non dans les établissements scolaires.
Cette polémique a d'ailleurs suivi les nombreuses dénonciations de sexisme dans les lycées avec le hashtag 14 septembre. nous pouvons voir d'autres phrases comme par exemple « Les roses n'effacent pas les bleus », qui évoquent la gravité des violences conjugales impardonnables.
Selon l'AFP, les signalements de violences conjugales ont augmenté de 60% durant le deuxième confinement en France. Des phrases sont plus explicites et réagissent à une actualité comme « Dieu Hamel et les autres, vous n'aurez jamais la paix », qui font référence à des affaires d'inceste.
Oui, dernièrement, Olivier Duhamel a été accusé d'inceste envers son beau-fils. Sa belle-fille, Camille Kouchner, révèle la destruction de sa famille dans son livre « La Familia Grande », paru le 7 janvier 2021. Plus récemment, une nouvelle accusation de viol dénonçait les actes de Pierre Ménès, journaliste sportif, envers une de ses collègues, Marie Portolano. Il aurait, entre autres, soulevé sa jupe.
Cette dernière en a récemment parlé dans un reportage intitulé « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste ». Cette affaire nous rappelle ce collage « Ma jupe n'est pas une invitation ».
Pour plus d'informations, nous vous invitons à écouter la chronique suivante. En 2020, la France fait face à une augmentation considérable de viols. D'après le site Terra Femina, nous en comptons 24 800 en une année, soit 67 viols par jour, en augmentation par rapport à 2019 de 11%. En revanche, le nombre d'agressions sexuelles est légèrement en baisse de 3%. Un sondage international a été réalisé afin de se rendre compte de la situation par les chiffres. L'entreprise de sondage Ipsos, en partenariat avec des chercheurs de la Cornell University et la marque de cosmétiques L'Oréal Paris, ont relevé durant une enquête que 86% des personnes interrogées ne savent pas comment réagir face à l'harcèlement sexuel. 81% des femmes ont déjà été victimes d'harcèlement sexuel en lieu public et 20% de ces femmes déclarent qu'elles n'ont pas été prises en charge en commissariat. Perrine va maintenant vous parler du témoignage de Betty Menchez.
Betty Menchez, habitante de Compiègne, nous fait part de son histoire à travers le reportage de 7 à 8 de l'inceste au meurtre du 21 mars 2021. Son père, non seulement violent, a violé pendant des années ses deux de ses trois filles. Pour Betty, ça a duré de ses 8 à 18 ans. Elle dit « Quand c'est lui qui décide, on plie ». La mère, complice et témoin des actes de son mari, ne dit rien. Betty Menchez tombe trois fois enceinte de son père. Lors de chaque avortement, elle dit devoir changer d'hôpital pour ne pas éveiller les soupçons. En classe de CM2, le médecin de famille avertit par la découverte de bleus sur son corps, mais la mère oppose le fait que Betty soit bagarreuse. Il n'y a donc pas de suite. Le père impose ensuite à la famille de déménager dans une maison isolée dans la forêt, avec une cabane à part de la maison pour ses deux frères. Alors, le père forme un couple avec sa sœur aînée, Virginie, qui, malgré la présence de sa mère, devient la véritable mère de famille. Ensuite, ils ont un enfant. C'est la goutte de trop pour Betty, qui finit par tout raconter à la gendarmerie. Les parents et Virginie sont placés en garde à vue. Cette dernière, séparée de son fils, supplie sa sœur de revenir sur son témoignage. Ce que Betty fait afin de garder sa sœur, car elle dit « c'est tout ce qui me reste ». Lors du procès, l'expertise psychiatrique déclare étonnamment qu'il y a des incestes heureux. Les parents sont condamnés à 5 ans avec 2 ans de prison ferme. Le père et la fille vivent comme une famille dite « normale » avec leur enfant, jusqu'au jour où Virginie s'enfuit avec son fils. Mais le père la retrouve. Il tue son patron et sur son passage, puis sa fille. Il se tire une balle, mais gardé dans le coma pendant 6 mois, il survit, contrairement à Virginie et son patron. Il est enfin condamné à vie lors d'un second procès, mais il meurt d'un arrêt cardiaque 2 jours après. Betty Menchez écrit un livre « Ce n'était pas de l'amour » où elle raconte toute cette histoire tragique. Passons maintenant à l'affaire Marc Poulvard, présentée par Tiffany et Joëva.
Marc Poulvard, enseignant de mathématiques et politicien, est né en 1936 et est mort en février 2008. Au cours de sa carrière, il est évincé de l'éducation nationale après une confrontation avec un inspecteur académique. Il se convertit en contrôleur des services techniques et continue de donner des cours particuliers. Ses collègues le définissent comme quelqu'un d'un peu enragé et de brutal. Ses patrons le craignaient et en venaient même à le détester. En 1980, on met un contrat sur sa tête. Il est agressé sur le port de Fort-de-France et blesse un de ses agresseurs à la jambe. Il est donc condamné à quelques mois de prison. À cette époque, personne ne le soupçonne pédocriminel, même si certains bruits courent. Il est d'ailleurs soupçonné par les renseignements généraux. Édouard Glissant, poète des années 2000 et beau-frère de Marc Poulvard, était apparemment au courant de ces actes, mais n'aurait jamais imaginé que cela concernait sa fille, Barbara Glissant. Il avait été décidé de ne rien dire pour ne pas salir la famille, explique un neveu du romancier. Quand enfin les victimes se sont décidées de parler, personne ne les a écoutées. Barbara, victime des actes de son oncle, mettra longtemps à s'exprimer. Mais elle le fera après une tentative de suicide à ses 30 ans. Valérie Falourde, elle aussi victime, en parlera à sa mère à l'âge de ses 17 ans. Un jour, dans la voiture, j'ai tout balancé. Sa mère ne l'a malheureusement pas cru. Cette dernière s'exprime aujourd'hui en nous disant ces mots. J'ai pensé, qui va croire une adolescente face à cette gloire nationale ? En effet, Marc Poulvard est considéré comme un héros à cette époque. Valérie est en colère et doit malgré elle continuer de voir la tête de son violeur heureux à la télévision.
En 2002, Valérie Falourde et sa cousine Karine Mousseau décident de porter plainte contre leur agresseur. Après plusieurs années d'enseignement à Paris, j'ai obtenu ma mutation en Martinique. Et là, je me suis dit que je ne pouvais pas vivre sur la même île que Poulvard sans que les choses soient dites, témoigne Karine Mousseau. Elle est bien décidée à parler après avoir vécu 40 ans de galère. La plainte n'a jamais abouti, donc pour les victimes, c'est un retour à la case silence. La journaliste Audrey Poulvard, fille de Marc Poulvard, affirme avoir des flashs désagréables et malsains de son père, ayant des comportements étranges sur des petites filles sans défense. Son enterrement a lieu en février 2008. Sont présents ses amis, des compagnons de lutte, des représentants politiques et des syndicats. Toute la population le prend pour un héros et pour le père de la nation martiniquaise. Ils sont tous loin d'imaginer les actes horribles dont il est l'auteur. En 2021, 13 ans après sa mort, un texte de 2 pages fait tout basculer. Barbara Glissant, Karine Mousseau et Valérie Falourde écrivent 20 ans après leur première plainte. Marc Poulvard, 1936-2008, héros martiniquais pédocriminel et violeur. C'est grâce à la publication en janvier 2021 du livre « La Familia Grande » de Camille Kouchner qu'elle trouve enfin la force de parler. Barbara confie au journal Le Monde, après toutes ces années, les détails et les souvenirs tragiques qui la hantent. Elle commence en évoquant l'approche que Marc Poulvard avait envers les petites filles. Marc Poulvard, le héros, savait parler. Mais quand Marc Poulvard, le violeur, parlait aux petites filles, il s'y prenait autrement. Il leur parlait doucement, oui, comme si de rien n'était, pendant qu'il... Il parlait si doucement que tout semblait normal. Il transpirait quand même beaucoup. Elle ne se demandait pas pourquoi à l'époque. Elle explique ensuite son quotidien pendant ses vacances avec son monstre d'oncle. Dès le départ au camping, il l'installait derrière le siège conducteur et commençait ses caresses. L'eau est chaude, calme. On pouvait y passer des heures. Il l'emmenait à l'écart. Quand Audrey, sa fille, essayait de s'approcher, il trouvait des prétextes pour l'éloigner. Aujourd'hui, les 3 femmes sont heureuses d'avoir pris la parole en sortant du silence. Je vous laisse à présent avec Lynn et Joëva qui vous parleront du frein à la dénonciation d'agression, le silence.
Le journal Le Monde évoque les tortures et viols commis pendant la guerre d'Algérie. L'article traite des tabous au sein des familles algériennes au sujet des viols commis par des soldats français sur les Algériennes combattantes. Pour les victimes, il faut se taire, ne pas raconter le viol, ne pas témoigner. Avoir vécu cette situation est malheureusement considéré comme signe de honte.
Aujourd'hui, les mentalités évoluent doucement, mais les victimes n'osent pas employer le terme de viol. Mais elles dénoncent ces crimes avec des signes particuliers comme des regards. Les gens n'écoutent pas, ne croient pas ou n'entendent pas ces victimes. S'ils ne trouvent pas d'informations sur ce sujet, c'est bien parce qu'un silence demeure. On le voit également avec la longueur entre les témoignages et les agressions, avec Betty Manchez, qui parle seulement à l'âge de 38 ans, et l'affaire Marc Poulvard, avec les victimes qui témoignent 20 ans après. Dans certains cas, les femmes parlent peu, car elles ont peur de parler de cet incident, déjà difficile en soi, mais bien souvent les plaintes sont classées sans suite. Et maintenant, je laisse la parole à Lynn et Perrine, qui vous parleront des tenues lors des viols en anglais, grâce au site Monsieur Mondialisation.
Now we are going to tell you about the appropriate outfit or not. Often the rapists justify their assault by saying that it's because of the girl's outfit. It would be because of the victims because they would wear too short skirts or light tops.
Apparently, men would not be responsible of this crime only because they can calm their sexual urges. When the victims talk about their aggression, at first, people ask them what they were wearing when it happened.
Pour finir, passons à l'actualité sportive, présentée par Mathis, Bilal et Théo.
Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour l'actualité sportive. Mathis nous donnera les résultats de cette nuit en NBA. Quant à moi, je vous parlerai de l'évolution des partenariats. Mais tout de suite, Théo évoque les résultats des qualifications internationales de football.
Sans briller, les Bleus vont emporter hier à Sarajevo grâce à un but d'Antoine Griezmann. Bien que laborieuse, la victoire de l'équipe de France en Bosnie-Herzégovine leur permet de prendre la tête de leur groupe pour la qualification à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Elle aura dû être capable de plier l'affaire face à un adversaire volontaire et généreux qui n'était cependant pas en mesure de proposer autre chose que d'opérer par contre ou d'attendre une faute française à proximité de sa surface comme l'ont eu les Bosniaques à la 81e minute à cause d'une faute du milieu de terrain Paul Pogba. Le coup franc tiré par Miralem Pjanic finit dans le mur français et n'aboutit à rien. Mais la France est tout de même parvenue à s'imposer à Sarajevo, sauvée des eaux par Antoine Griezmann, qui de nouveau devient décisif. L'animation offensive des Bleus n'a pas véritablement été leur point fort depuis le début des matchs pour la qualification à la Coupe du Monde 2022.
Est-ce qu'on peut dire que les Français ont mal joué ?
Il n'y avait pas assez de qualité dans les relances, ni de variété dans les appels pour donner plus de rythme au match. Mais Griezmann parvient à sauver les Bleus grâce à une magnifique tête à la 60e minute, dont même le gardien impuissant n'eut pas le temps de réagir. Deschamps et son staff peuvent donc désormais se pencher sereinement sur la préparation de l'Euro 2021, car Deschamps l'a dit lors de sa conférence d'après-match, l'essentiel est ce résultat.
Et le groupe Espoir, lui ?
En revanche, le groupe Espoir de l'équipe de France, lui, s'est qualifié pour les quarts de finale de l'Euro en l'emportant contre l'Islande 2-0. Les Français, qui, comme le groupe professionnel, étaient à l'extérieur, l'ont emporté eux aussi. Sérieux pour dominer l'Islande, c'est Matteo Guendouzi qui ouvre le score à la 17e minute car ils ont mis du rythme, de l'intensité dès le début du match. C'est à la 38e minute qu'Osdon Edouard vient soulager cette équipe avant la mi-temps. En revanche, le jeune joueur de Lille, Jonathan Ikoné, a raté la plupart de ses gestes. Amine Gouiri n'a pas retrouvé son rayonnement niçois, ainsi que Romain Fèvre qui a créé malheureusement très peu de différence. Passons aux résultats de la NBA avec Mathis.
Pour cette nuit en NBA, 2-3 matchs ont permis de créer des écarts dans le classement. Les Timberwolves de Minnesota gagnent enfin un match contre les Knicks de New York. Ils remportent le match 102-101, mais malgré ça, les Timberwolves restent derniers du classement de la Conférence Ouest avec seulement 12 matchs gagnés et 32-6 perdus. Pour le reste du match de cette nuit, les Lakers de Los Angeles perdent 97-112 contre les Bucks de Milwaukee. À cause de cette défaite, ils perdent leur 3ème place au classement de la Conférence Ouest. Malgré la persévérance de Kyle Kuzma, qui enregistre 34 points, c'est Giannis Antetokounmpo qui a mené le match avec 36 points. Les Jazz de l'Utah conservent leur 1ère place de la Conférence Ouest en battant les Grizzlies de Memphis. Même situation pour les Nets de Brooklyn qui eux aussi conservent les 1ères places de la Conférence en gagnant 120-108 contre les Rockets de Houston. Grâce à l'arrivée de Blake Griffin, les Nets renforcent encore plus leur effectif. Les Suns de Phoenix qui font des exploits par rapport à leur saison dernière, ils sont à la 2ème place de la Conférence Ouest comparée à l'année dernière où ils étaient la 10ème place. Hier, ils gagnent leur match contre les Bulls de Chicago 121-116. Cette performance a eu lieu grâce à l'arrivée de Chris Paul en début de saison. Les Spurs de San Antonio tentent de résister et de garder leur 8ème place à la Conférence Ouest pour conserver leur place au playoff. Et leurs résistants font leur performance en remportant leur match 120-106 contre les Kings de Sacramento. Mais malheureusement, les Thunder d'Oklahoma City tentent eux aussi de résister en remportant leur match contre les Raptors de Toronto 113-103, mais malgré ça, ils sont à la 13e place du classement de la Conférence Ouest, ce qui pour le moment leur donne pas leur chance au play-off. Les Heat de Miami restent stables et restent à la 5e place de la Conférence Est. Leur match gagné contre les Packers de l'Indiana 97-87, ce qui renforce leur position. Quant aux Celtics de Boston, ont de plus en plus de mal à remonter dans le classement. Leur défaite contre les Mavericks de Dallas 108-113 ne vont pas les aider. Pour finir, les Trail Blazers tentent de remonter dans le classement de la Conférence Ouest en gagnant leur match contre les Pistons de Détroit 124-101. Avec Damien Lillard qui a inscrit 36 points à ce match, plus les matchs passent et plus ses performances se démarquent. Maintenant, Bilal va nous parler des contrats entre les joueurs et les marques.
À ce jour, les contrats se diversifient entre les joueurs et les marques. Nike resserre ses troupes. Elle n'hésite pas à rompre avec certains de ses ambassadeurs de longue date, comme Raphaël Varane, qui est lié à la marque depuis 2011. Mais la marque n'a pas renouvelé son contrat en juin 2020. Le géant américain semble revoir son portefeuille d'ambassadeurs et mise sur la nouvelle génération. Suite à son non-renouvellement, Varane s'est donc tournée vers l'un des concurrents du Swoosh, Puma. Elle devient l'une des plus grandes marques de sport. Ce processus a été le même pour Neymar, qui a été repéré et verrouillé dès ses 13 ans. Là encore, Nike n'a pas hésité à laisser filer le Brésilien. Alors, certains joueurs perdent patience et se tournent vers les concurrents. En face, Puma reste très actif sur le marché alors que la pandémie du Covid-19 et sa crise économique n'aident pas la marque à se développer encore plus. Mais pour Nike, elle n'est pas la seule raison de non-renouvellement car la société américaine a plutôt bien résisté à la crise sanitaire grâce à l'augmentation de la vente en ligne. C'est pourquoi Nike est à la recherche de la nouvelle génération de joueurs comme Mbappé. Mais si ces départs sont de plus en plus réguliers, c'est aussi parce que la marque américaine investit de plus en plus dans le football féminin, comme la norvégienne Ada Hegerberg qui a participé au lancement du nouveau crampon aux côtés de Cristiano Ronaldo en janvier. Mais les femmes en général gagnent très souvent moins que les hommes. Parlons de rupture de contrat. Le footballeur français Antoine Griezmann a annoncé la fin de son contrat avec Huawei, son sponsor principal, le 10 décembre, en soutien à la population ouïghour. Une décision forte du joueur du FC Barcelone qui aura des conséquences pour la Chine sur les plans économiques et technologiques.
Revenons sur l'actualité de cette pandémie tout en se rapprochant du monde du sport. À Paris ouvrira mardi au Stade de France un centre de vaccination. Ce vaccinodrome sera destiné pour lutter contre le Covid-19 avec un premier objectif de 10 000 injections par semaine. Le vaccinodrome comprendra deux salles, une pour les rendez-vous et une pour les injections.
Notre émission touche à sa fin. Avant de nous quitter, nous vous remercions de nous avoir écoutés. Nous vous souhaitons une bonne journée et à bientôt sur la radio PGDG.